Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel. Votre émission Tourne-Page vous est présentée aujourd'hui par Catherine Fox avec à la technique Claude Casal. Le livre dont je vais vous parler a été défini comme un ovni, objet volant non identifié, tellement il est original dans son contenu. Je l'ai trouvé tout simplement jubilatoire et pertinent pour notre époque. Il s'agit d'un premier livre écrit par Arthur Lockman qui s'intitule « La vie solide » avec comme sous-titre « La charpente comme éthique du fer ». Il est publié chez Payot. En résumé, l'on dirait que ce livre est une autobiographie partielle de la vie d'Arthur Lockman pendant une dizaine d'années, après 3 années de classe préparatoire, 2 années à l'université, une licence de droit, des études d'anglais, de philo. Et Arthur Lockman nous dit qu'il souhaite gagner sa vie et faire autre chose que la vie d'étudiant universitaire. Ce livre est à la fois une autobiographie et une autobiographie, je dirais, philosophique. Je tiens à vous dire que vous n'avez pas besoin vous-même de vous souvenir des cours de philo sur Kant, sur Aristote ou Heidegger. Et vous n'avez pas non plus besoin de vous abonner à une revue de philosophie moderne avec des philosophes modernes. Ce livre contient une description précise, instructive et souvent amusante des expériences d'Arthur Lockman pendant une dizaine d'années en France et en Allemagne, où il a exercé par période le métier de charpentier. Tout d'abord, j'aimerais vous dire comment j'ai fait la rencontre de ce livre, qui s'est produit tout à fait par hasard. En effet, en sortant d'un métro bien parisien qui porte le nom de Saint-Germain-des-Prés, je croise une femme qui me demande si je sais où se trouve une librairie dans le quartier. En effet, son petit-fils va y signer un livre dont il est l'auteur. Je l'accompagne à la seule librairie, hélas, qui reste dans ce morceau du boulevard Saint-Germain, l'Écume des Pages, et j'y fais la connaissance d'Arthur Lockman. Un autre hasard amusant se produit. En effet, je le rencontre quelques semaines plus tard, et c'est lui-même qui me fait remarquer que nous étions le jour de la Saint-Joseph, saint patron des charpentiers. Des hasards amusants, n'allons pas y voir autre chose, mais sans cette première rencontre, il ne m'aurait pas été permis de découvrir ce livre que je trouve remarquable, ni de vous faire entendre vers la fin de cette émission une lecture par l'auteur lui-même d'un passage de son livre. Parlons donc maintenant de l'ouvrage et de son auteur. L'on peut comprendre aisément qu'un étudiant lassé, épuisé ou désireux de connaître autre chose qu'une vie axée autour de l'intellect puisse vouloir interrompre ses études. En Angleterre, la notion d'un arrêt entre le bac et la fac, pendant quelques mois ou une brève année, se fait encore relativement souvent sans que cela ait un impact négatif sur les études. Arthur Lockman nous précise qu'il n'est pas devenu charpentier, car il n'a pas l'intention ni de s'identifier à ce métier, ni de le pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qui n'était au début qu'un moyen de pourvoir à ses finances devient tout autre chose, et nous apprendrons qu'il a vu et compris beaucoup d'autres choses qu'il nous fait partager. Pourquoi la charpente, peut-on se dire? Et on pourrait faire un peu de psy-salon et se dire « Ah ah, son père qui était architecte a également fait un peu de maçonnerie ». Mais ce roman n'est pas un roman à propos de son père, il s'agit vraiment de ses propres expériences, expériences d'apprentissage, de savoir acquis. Et ce livre, en 200 pages, nous apporte beaucoup. Nous apprenons que le bois est une matière vivante dont on se doutait. Le bois utilisé est connu depuis que l'homme est sur terre avec la végétation qui l'a précédé. Le style d'Arthur Lockman est précis et le vocabulaire du bois nous est expliqué. L'origine de certains termes, leur emploi en français, tel le mot charpente, a plusieurs sens. Les expressions petite et grande cognée nous sont expliquées. On y rencontre également des expressions comme la ferme, la sauterelle. Et ni l'une ni l'autre de ces expressions ne recouvre un habitat ou une exploitation agricole et non plus un insecte. Donc, je ne vous donnerai pas l'explication, je vais vous référer au livre. La nature du bois nous est expliquée également, ses vénures, ses motifs qui sont variables, leur performance exceptionnelle. L'on apprend que le mélèze, par exemple, peut nous protéger de l'électrosmog. L'influence des cycles de la lune sur le calendrier d'abattage des arbres est importante. Ainsi, le bois de lune, c'est-à-dire le bois qui est abattu lorsque la lune est descendante ou décroissante, offre un séchage plus rapide, une meilleure résistance mécanique et une moindre vulnérabilité aux parasites. Colbert, qui avait fait planter grand nombre de chênes dans la forêt du Troncé, exigeait que l'on procède ainsi pour les bois destinés à la charpente de la marine. La matière, ce matériau vivant dont on ne peut tirer le meilleur qu'à condition de bien le comprendre et qui, taillé sur mesure, est le mieux adapté à la réalisation rapide de cadres ou d'étés pour reprendre les charges d'une fenêtre ou d'un mur affaibli par un incendie, nous est présenté par Arthur Lockman. Il nous transmet également le bois et le sens du bois par les cinq sens. Ces descriptions, et là je me réfère à son style que j'ai trouvé très élégant, ces descriptions des arbres, des poutres, de l'assemblage des éléments de charpente nous font voir également la teinte rosée qui tourne gris en vieillissant du cèdre rouge. Il arrive à nous faire sentir l'odeur puissante et suave du chêne comparé au grand vin bien charpenté, l'odeur plus douce et moins entêtante du pin et du sapin qui est évoquée, ainsi que la bulle odorante qui flotte autour de la scie d'une fragrance chaude et épicée. Ce livre raconte l'apprentissage au métier, qui a débuté en septembre 2009 à Anglet, au centre de formation de la Fédération Compagnonique dans le Pays Basque. Dans l'apprentissage, l'on commence par apprendre les noms des outils, les termes techniques. On a la sensation d'apprendre une nouvelle langue. L'apprenti peut faire l'objet de plaisanteries. On peut lui demander d'aller chercher l'équerre à 180 degrés ou le marteau à courber le verre. Mené en bateau, l'apprenti apprend que les mots correspondent à une réalité précise qui fait gagner du temps et qui permet donc de faire passer rapidement un contenu. C'est amusant, mais cela fait également réfléchir à la pauvreté du vocabulaire constatée chez nombre d'adolescents qui ne peuvent s'exprimer qu'à travers quelques maigres petites centaines de mots et ne peuvent mettre un nom sur leurs émotions pour les comprendre et les maîtriser. Arthur Lockman nous présente également une galerie de personnes qu'il rencontre. Il y a la charpentière qui lui apprend en fait une certaine humilité dans le sens où elle lui donne un conseil de prendre un certain outil, il ignore ce conseil et a beaucoup de mal à faire le travail qui lui est demandé. Et avec élégance, elle lui explique pourquoi elle lui conseillait tel outil. Donc on apprend également que l'apprentissage demande de l'humilité. L'outil aussi est important, car il sert en quelque sorte à augmenter la perception, ou même pour y accéder. Il est un prolongement qui s'intègre, qu'il s'agisse de la scie ou du marteau. Le mot « augmenté » va vous faire penser à l'être humain augmenté, prôné par certains savants, ingénieurs, dont ils pensent que nous aurions tout bénéfice à les adopter. Il s'agit ici d'une relation intermédiaire entre le bois vivant et l'être humain. Le serre-joint permet d'éprouver la souplesse du bois. Le ciseau à bois fait ressentir la structure, les choses auxquelles la main n'a pas accès directement. J'ai beaucoup apprécié également dans ce livre le fait que il n'y a pas vraiment une opposition entre cerveau d'un côté et corps de l'autre. Le corps apprend les gestes à faire, il se positionne par exemple par rapport à la scie, et c'est tout le corps qui participe, qui apprend à faire le geste qu'il convient. Arthur Lockman nous raconte de façon amusante qu'il pensait en sortant, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'années d'études universitaires, que le cerveau allait lui dicter, lui dire comment faire. Eh bien non, le cerveau tout seul ne peut rien, les choses doivent être ressenties à travers leur corps. La notion de responsabilité est également évoquée et J'ai appris avec intérêt que l'on ne cherche pas véritablement à faire porter le chapeau à quelqu'un qui commet une erreur. Il s'agit effectivement d'un travail en groupe, chacun dépend de l'autre, sa vie dépend de l'autre, et donc l'on ne va pas pointer le doigt vers le coupable, entre guillemets. C'est assez jubilatoire et on se dit, tiens, ça serait peut-être pas mal si dans l'éducation on pouvait procéder de même. Donc, je ne saurais que vous recommander la lecture de ce livre. Je vous avais dit qu'on y rencontrait des jolis personnages et je citerai le dernier qui est Louis, qui est un MOF ou un MOF. Je ne sais pas si on dit MOF, mais il n'a rien à voir, le terme n'a rien à voir avec MOF. Il s'agit ici de meilleur ouvrier de France. Et ce personnage est dans une vallée de l'Aspe, un meilleur ouvrier de France remarquable qui produit des trésors, de très belles choses et qui le fait de façon très naturelle, j'allais presque dire avec indifférence, mais ce n'est pas avec indifférence, car ce qui caractérise l'artisan, c'est la fierté, non point en lui-même nécessairement, mais dans l'ouvrage qu'il a fait. Un aspect très important, donc, c'est la satisfaction qui est tirée du travail. À l'heure actuelle, ce sentiment semble avoir peut-être un peu disparu, bien que, en même temps, l'on se rende compte que beaucoup de très bons élèves, si on peut dire de classe, quittent un travail qu'ils jugent un peu ennuyeux pour se tourner vers l'artisanat. Je vais avoir donc le plaisir de céder la parole à Arthur Lockman, qui va vous présenter, enfin vous lire un extrait de son livre, et je vous en laisse donc découvrir la surprise.
Si la figure de l'artisan peut aujourd'hui être si inspirante, c'est aussi et surtout parce que, dans une époque où les identités se fluidifient et deviennent de plus en plus transitoires, elle permet de suspendre la question de l'identité, qui suis-je au fond, pour la remplacer par la question de l'agir et y répondre par une éthique du faire. Individuellement, c'est en soignant notre rapport au travail que l'on peut, dans les périodes de tétanie et d'immobilité, reprendre la main sur sa vie. Mon ambition se résumait donc à une chose, montrer qu'à cet égard, l'apprentissage d'un métier artisanal peut nous apporter quelques règles d'orientation pour la dérive sur les eaux très liquides de notre époque. Comme beaucoup de ma génération, j'ai personnellement bénéficié de cette fluidification, celle précisément qui nous désoriente, pour multiplier les expériences et parcourir le monde social. Déboussolé au cours de mes études de droit et de philosophie, j'ai bifurqué vers la charpente pour, de fil en aiguille, en venir à travailler comme traducteur littéraire. Et, de même que bon nombre de ces navigateurs en quête d'orientation, c'est donc vers l'artisanat que je me suis spontanément tourné quand j'ai eu besoin de reprendre pied. La charpente ne m'a pas fourni une identité, ni mon expérience, ni mes compétences, ni mon mode de vie ne me permettent de me dire charpentier. Et puis j'ai trop d'estime et d'admiration pour le savoir, le courage et l'énergie des femmes et des hommes qui le sont vraiment, tous les jours, toute l'année, toute la vie.
Je remercie Arthur Lockman d'avoir lu ce passage de son livre « La vie solide, la charpente comme éthique du fer » publié chez Payot. J'espère que ces 200 pages vous plairont, chers auditeurs. Je dois dire qu'à titre personnel, j'aimerais beaucoup qu'il écrive un deuxième livre. Peut-être cela pourrait être sur ses études qui ont avancé maintenant dans le droit, puisqu'il a repris ses études de droit. Et nous aurions peut-être une vue intéressante de ce qui se passe dans une étude, à un cabinet d'avocat ou à la cour. De toute façon, lisez-le. C'est un livre qui ouvre des fenêtres sur d'autres livres qu'il mentionne et cela pour moi est également un grand plaisir de lire des recommandations de quelqu'un dont j'ai apprécié l'ouvrage. Chers auditeurs, vous pourrez réécouter cette émission sur notre site radiograndciel.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.